est presque 19h sur Inter, j'attends les bips, et voilà, 19h sur Inter. Le journal avec vous, Yves Decamp.
Bonsoir. Marseille dans la douleur et Lyon dans l'apaisement, c'est après moult tractations que Michel Rubirola, chef de file de l'Union de la Gauche, a été élu maire de la cité phocéenne au milieu d'après-midi, après avoir négocié le soutien de la sénatrice Samia Ghali. Et c'est dans un climat très serein que le conseil municipal de Lyon a choisi, sans écueil, son maire écologiste Grégory Doucet. La première sortie officielle du Premier ministre Jean Castex, pour l'instant toujours seul au gouvernement, dont la composition devrait être annoncée demain ou lundi. Il visitait cet après-midi une entreprise de Corbeil-Essonne, mettant l'accent à nouveau sur la nécessité d'un plan de relance et du soutien de l'État. Dans ce journal également, toute une zone de Catalogne mise en quarantaine autour de la ville de Lérida. L'appel au secours de l'Ocean Viking, le navire humanitaire d'SOS Méditerranée, qui fait état d'une situation de détresse extrême des migrants récupérés en mer. Ceux qui croyaient aux ours dans les Pyrénées et ceux qui n'en voulaient pas, deux manifestations à distance, des pros et anti-ours cet après-midi à Toulouse et dans l'Ariège. Les premiers grands départs en vacances, sans gros problèmes sur les routes. Tout a été fait pour l'accueil sécurisé des touristes sur les aires d'autoroute. Reportage dans un instant dans le Gard et puis la météo demain, comme hier, Maussade au nord de la Loire. Beaucoup de soleil sur les régions méridionales.
France Inter.
Soulagé de voir que la volonté des Marseillais a été respectée, la voix teintée d'émotion longuement applaudie par ses soutiens, la toute nouvelle maire de Marseille, première femme à occuper ce poste dans la deuxième ville de France. Elle a fait devant le conseil municipal sa première déclaration promettant une ville plus verte, plus juste et plus démocratique. Michel Rubirola, médecin, écologiste, tête de liste de l'Union de la Gauche, a donc été élu au deuxième tour de ce troisième tour de l'élection municipale, non sans mal et après moult tractation avec l'élu des quartiers nord, la sénatrice ex-PS Samia Ghali. Bref, Mathilde Vinceneux a un vrai scénario à la marseillaise.
Il aura fallu de longues heures de négociations pour qu'une majorité absolue se dégage dans l'hémicycle. Finalement, Michel Rubirola obtient le soutien de Samia Ghali, élue dans le 8e secteur des quartiers nord. Grâce à ses voix, la victoire est enfin annoncée.
Madame Michèle Rubirola, 51, et monsieur Guy Tessier, 41.
Ému aux larmes, Michèle Rubirola reçoit des mains de Jean-Claude Gaudin son écharpe tricolore et commence son discours.
Marseille appartient à qui vient du large. Pour ma part, je ne sais pas si le printemps marseillais vient du large, mais je sais qu'il vient de loin.
En face d'elle, les visages fermés des élus Les Républicains, ils passent dans l'opposition. Leur candidat déchu, Guy Tessier.
J'ai le cœur gros plutôt, parce que on avait compté, on savait que finalement l'issue de cette élection dépendait de Samia Ghali.
Déception donc pour la droite, mais hurlement de joie devant la mairie.
Là je vous parle, je suis encore émue. J'ai 40 ans cette année et je suis née à Marseille, là je peux être fière de Marseille.
Marseille qui passe à gauche, Marseille qui élit pour la première fois de son histoire une femme sur le fauteuil de maire, une page qui se tourne. Marseille, Mathilde Vinceneux, France Inter.
51 voix donc sur 92 pour Michel Rubirola. Les élus du Rassemblement National n'ont pas pris part au vote. Beaucoup de troisième tour se tenaient aujourd'hui de façon beaucoup plus calme. À Strasbourg, la nouvelle majorité écologiste de Jeanne Barcéguian a été rejointe par le groupe socialiste de Catherine Trottmann. À Montpellier, le socialiste Michael Delafosse a été élu très largement en promettant de mettre sa ville sur le chemin de la transition écologique. Et puis à Lyon, l'écologiste Grégory Doucet, cadre humanitaire de 46 ans, a reçu l'écharpe tricolore des mains de son prédécesseur Gérard Collomb à l'issue d'un conseil municipal placé sous le signe de l'apaisement général avec un maire qui s'est d'abord voulu rassurant.
Nous entrons dans une nouvelle ère pour la ville et nous démarrons un nouveau cycle. Je veux en profiter pour dissiper quelques malentendus. Nous ne voulons pas affaiblir l'économie. Nous pensons que le progrès écologique peut en constituer sa matrice. On a voulu que la ville soit attractive. Nous pensons qu'elle peut devenir inspirante. On a voulu que la ville de Lyon soit rayonnante. Nous pensons qu'elle peut briller par son exemplarité et un engagement précurseur dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Pour paraphraser les mots célèbres d'Antoine de Saint-Exupéry, né à Lyon il y a un peu plus d'un siècle, nous n'héritons pas de la terre. Nous l'empruntons à nos enfants. De même, nous n'héritons pas de Lyon, nous l'empruntons à nos enfants. Merci.
Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon. À Paris, c'est du côté de l'Élysée qu'on attend maintenant l'annonce du nouveau gouvernement. Annonce qui pourrait intervenir demain ou lundi. Le Premier ministre Jean Castex faisait cet après-midi sa première sortie officielle à Corbeil-Essonnes dans une société de recherche et de production de semi-conducteurs. Élodie Forêt, symbole à la fois d'une industrie innovante et d'une entreprise en difficulté conjoncturelle.
Le nouveau Premier ministre en visite à X-Fab, une entreprise industrielle présentée comme l'un des leaders mondiaux dans son domaine, mais frappé comme tant d'autres par la crise sanitaire, mais aussi par une concurrence mondiale de plus en plus féroce, dit Jean Castex.
L'objectif du gouvernement, l'objectif de l'État, c'est de voir dans le cadre du plan de relance comment ne pas simplement agir sur le court terme, comment on peut assurer les fondements d'une relocalisation, d'un maintien durable des emplois industriels et exposés à la concurrence dans notre pays.
Jean Castex, qui dès son premier jour impose donc ses priorités, l'emploi, mais aussi une méthode différente, davantage en concertation avec les élus locaux, invités cet après-midi.
Ils ont employé le mot de PAC. Moi qui viens d'un pays du rugby, ça me plaît beaucoup.
Des élus plutôt convaincus par ce nouveau Premier ministre, le député Robin Reda, proche de Valérie Pécresse.
Ce sont des signaux positifs. Donc nous allons voir les actes et nous allons voir la latitude que lui laisse le président de la République pour faire que la France soit une nation au travail, productive et qui a encore de l'avenir.
Jean Castex repartit rapidement vers Matignon. À son agenda désormais, une rencontre lundi soir avec les députés de la majorité.
Et en milieu ou en fin de semaine, le discours de politique générale à l'Assemblée.
France Inter. Yves Decamps.
À l'étranger, chez nos voisins d'Espagne, une ville de Catalogne en quarantaine depuis ce midi. Les quelques 200 000 habitants de la région de Lérida, à l'ouest de Barcelone, sont invités à ne pas quitter la zone où vient d'être constatée une augmentation très importante des cas de contamination au Covid-19. Mathieu de Taillac.
Les résidents du canton de Segria ont eu 4 heures, entre midi et 16 heures, pour rentrer dans leur zone de 1 400 km² et ceux qui étaient de passage pour en sortir. Et depuis, personne ne bouge ou presque. 200 policiers contrôlent les entrées et les sorties qui ne sont dorénavant autorisés que pour motifs professionnels et raisons de force majeure. Les réunions publiques ou privées de plus de 10 personnes sont également interdites. Les centres de jour pour personnes âgées suspendent leurs activités et les maisons de retraite ne reçoivent plus de visites. Il est recommandé en outre aux habitants de remplir une auto-attestation avant de sortir de chez eux. C'est donc un retour en arrière pour ce territoire rural situé autour de la ville de Lérida. Ce sont souvent des ouvriers agricoles qui sont touchés par le Covid. Les autorités nationales n'envisagent pas de nouvelles restrictions à l'échelle de toute l'Espagne. Elles avaient averti que des reconfinements locaux pouvaient avoir lieu. On vient d'en avoir le premier exemple, 2 semaines seulement après la levée de l'état d'urgence. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Pour voir les régions qui reconfinent à travers le monde, dossier complet à consulter sur franceinter.fr. Ce samedi, hasard de l'actualité, l'Espagne parallèlement a rouvert ses frontières aux ressortissants de 12 nouveaux pays. C'est aujourd'hui aussi qu'a rouvert la basilique de la Sagrada Familia après plus de 3 mois de fermeture, ouverture réservée pour ce premier jour au personnel de santé et de sécurité. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, les coiffeurs et les pubs ont revu ce samedi leurs premiers clients depuis plus de 3 mois, des clients qui d'ailleurs peuvent être les mêmes, avec bien sûr les précautions d'usage, le service à table plutôt qu'au bar, au point qu'un grand nombre d'établissements ont choisi de garder porte close. En Asie, avec plus de 22 000 cas supplémentaires ces dernières 24 heures, l'Inde est devenue le nouvel épicentre de l'épidémie dans cette partie du monde, avec plus de 18 000 morts déclarés au total. L'Inde, d'où viendra peut-être un jour la bonne nouvelle concernant un vaccin? Des dizaines d'essais cliniques sont en cours à travers le monde en ce moment même. Ça ne se sait pas beaucoup, mais c'est en Inde que sont fabriqués les 2/3 des vaccins utilisés sur la planète. Et c'est une compagnie peu connue, leader du marché, qui fait pour l'instant la course en tête. Le Serum Institute of India a déjà produit les premières doses d'un vaccin en cours de développement. Et notre correspondant Sébastien Farcy a pu rencontrer son PDG.
C'est une entreprise discrète, mais son influence est énorme. Serum Institute of India produit 1,5 milliard de doses de vaccins par an, soit la moitié des vaccins vendus dans le monde. Début juin, cette société basée à Pune, près de Bombay, a commencé à fabriquer les premières doses d'un potentiel vaccin contre le Covid-19, développé par l'université d'Oxford et le laboratoire britannique AstraZeneca. Adar Poonawalla, le PDG de la société, explique pourquoi il lance la production avant la fin des essais cliniques.
Les scientifiques d'Oxford estiment qu'il y a de 70 à 80% de chances que ce vaccin fonctionne. Ils sont très confiants car ils ont utilisé la même technologie pour le vaccin contre l'Ebola. Nous devons prendre ce risque en ces temps de crise, sinon nous perdrons un an et cela serait dramatique. Nous allons standardiser le processus et à partir du mois d'août, nous pourrons produire 50 millions de doses par mois.
Si les essais cliniques sont concluants, Serum Institute of India devrait être l'une des premières à produire le vaccin le plus recherché du monde. Il sera alors administré dès la fin de l'année. Cette entreprise fournira en priorité l'Inde et les pays d'Afrique, mais le laboratoire AstraZeneca s'est aussi engagé à fournir 400 millions de doses de ce vaccin aux pays européens. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
La situation reste tendue sur l'Ocean Viking au large de la Sicile. Le personnel d'SOS Méditerranée s'est dit en état d'urgence après avoir signalé des bagarres et tentatives de suicide. 180 migrants récupérés en mer attendent depuis 10 jours d'être débarqués. Une partie d'entre eux se trouve aujourd'hui dans une situation d'extrême détresse. Ils ont reçu ce midi la visite d'un médecin italien, comme le raconte Laurence Bondard, porte-parole d'SOS Méditerranée, jointe par Mathilde Dehimi à bord de l'Ocean Viking.
Ça a donné de l'espoir. Les rescapés sont contents d'avoir pu voir un médecin italien, d'avoir pu poser des questions. Ce qui nous inquiète, c'est que l'urgence reste absolument majeure. Ces espoirs peuvent être déçus si une solution n'est pas trouvée immédiatement. De nouveaux passages à l'acte pourraient se produire. Il y a juste quelques jours, deux personnes ont sauté à l'eau. Il a fallu que notre équipe aille les récupérer. D'autres ont tenté de sauter et ont pu être arrêtés au dernier moment par des rescapés et par des membres de notre équipe. Une autre personne a tenté de se suicider à bord. Donc la situation est extrêmement tendue, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas à quel moment quelque chose d'aussi grave pourrait se produire et jusqu'où ça peut aller. Nous demandons de recevoir des instructions officielles de la part des autorités maritimes compétentes immédiatement. Tant qu'on n'en aura pas, rien pour l'instant n'a changé, si ce n'est qu'effectivement il y a eu cette visite et que temporairement le moral des rescapés a pu potentiellement être un peu amélioré, mais ça n'est que temporaire.
Pour ou contre les ours dans les Pyrénées, pro et anti-ours se sont mobilisés ce samedi à Toulouse pour les premiers, en Ariège pour les seconds. À Toulouse, ils étaient 150 à 200 devant la préfecture pour demander le remplacement de l'animal, un mâle de 4 ans qui avait été tué par balle début juin, Flora Midi.
Ours tué, ours remplacé. Voilà le message de ces manifestants mobilisés depuis la mort de l'ours le 9 juin.
On lâche rien sauf les ours.
Là, c'est l'ours qui est ciblé, mais l'idée, c'est de réussir à appliquer cette méthode de pensée à toute la faune sauvage, tout ce qui nous entoure, et faire un petit peu attention.
Il y a plein d'autres endroits où ça se passe bien, des pays d'élevage, donc il n'y a pas de raison qu'en France, ça ne marche pas.
Gérard Cossimon, président du FIEP Pyrénées, part du principe qu'il y a suffisamment d'aide publique pour que les bergers cohabitent avec les ours.
Ce qui n'en veulent pas, c'est par dogmatisme. Quand vous avez la possibilité d'embaucher un berger et que l'État peut vous donner jusqu'à 2500 euros par mois pour embaucher ce salarié pendant la saison d'estive, si vous ne le faites pas, c'est parce que vous ne voulez pas.
Une délégation a été reçue par le secrétaire général de la préfecture d'Occitanie, un entretien encourageant selon Alain Rennes, président de l'association Pays de l'Oursadé.
Nous avons demandé de remplacer l'ours qui a été abattu illégalement et il nous a été répondu que c'était en cours d'étude et que la réponse n'était pas encore rendue mais que ce n'était pas exclu.
Une contre-manifestation se déroulait en même temps en Ariège, cette fois des éleveurs des Pyrénées qui dénoncent les prédations de l'ours. 21 bêtes sont mortes cette semaine à cause des ours, selon les éleveurs.
Voilà, peu de manifestants en présentiel, comme on dit aujourd'hui, mais 14 000 signataires pour la pétition de soutien aux ours. Un mot de voile avec cet après-midi, le départ de la Vendée Arctique au large des Sables d'Olonne. 20 skippers partis vers l'Islande, retour par les Açores dans un peu plus d'une dizaine de jours. Épreuve de préparation au Vendée Globe dont le départ sera donné dans 4 mois. Allez, un premier week-end de grand départ pour les vacances d'été qui se sera passé sans encombre. Un taux d'occupation de 80% dans les TGV, selon la SNCF, qui a remis d'ailleurs en service ces voitures barres. Et sur les routes, beaucoup de circulation ce matin en Ile-de-France et dans le sud. Rien de comparable évidemment avec les années précédentes et beaucoup de détente à l'occasion sur les aires d'autoroute. Reportage Sarah Nadjar.
Ce sont les vacances. Sur l'aire d'autoroute, à la limite entre le Gard et l'Hérault, la dernière étape avant la mer, les agents de Vinci offrent un éventail dès la sortie de la voiture et puis on vous dirige vers un village détente.
Vous êtes sur l'étape bien arrivée. On a installé des tables de pique-nique. Les gens peuvent déjeuner, faire une pause, à l'ombre, avec le chant des cigales autour.
Évidemment, on est timide avant d'entrer, surtout les mamans, qui se demandent si c'est bien sécurisé.
Bon, moi, j'étais pas trop pour y aller, hein, parce qu'à cause de ce virus, j'avais un peu peur. Mais bon, au final, mon mari nous a un peu poussé et voilà. J'ai vu qu'il y avait du gel hydroalcoolique à l'entrée. On va y aller, on va profiter.
Il y a aussi un petit coin prévu pour les producteurs locaux. On y rencontre Guillaume, apiculteur, à quelques kilomètres d'ici.
C'est la première fois. J'ai vu que la Chambre d'agriculture a lancé ça l'année dernière. On s'était inscrit, on n'a pas été retenu parce qu'il y avait d'autres apiculteurs plus proches. Et là, cette année, beaucoup n'ont pas voulu venir, donc on a eu la place. Voilà.
Vous êtes quand même la première étape de la région pour ceux qui viennent la découvrir.
Oh. Ah ouais, alors j'avais pas pensé à ça.
Mais pas de panique, tout se passe bien. Les enfants n'hésitent pas à redemander des tartines de miel.
On va manger parce que j'ai faim, mais on va partir au camping.
Et oui, on y va là.
Voilà, Sarah Nedjar sur fond de cigale. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Pas de changement notable dans la situation demain avec le maintien d'un ciel globalement maussade du nord de la Loire au nord de la Seine, d'un vent toujours assez turbulent dans le couloir de la Manche et tout de même à signaler le retour d'éclaircies par les côtes une fois passée la mi-journée. Plus bas, comme aujourd'hui, le soleil sera particulièrement veillant sur les régions les plus méridionales, mais parfois le ciel sera un peu plus variable du Grand Est au centre et du Massif central au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Les températures maximales vont généralement gagner 2 à 3 degrés par rapport à aujourd'hui sur l'ensemble du pays, mettant les valeurs entre 20 et 27 degrés dans la moitié nord et généralement entre 29 et 34 au sud, avec des pointes à 36 autour de la basse vallée du Rhône.